Vous écoutez Radio Okapi à partir de la commune Makiso à Kisangani. Il est 19h chez vous, 18h à Kisenso. Ici à Kinshasa, le journal.
Radio Okapi.
À la une, ces résultats annulés de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la Tchopo. Décision de la Cour d'appel de Kisangani. Cette juridiction enjoint à la CENI d'organiser une nouvelle élection dans 7 jours. 18 groupes armés du Nord Kivu réaffirment leur engagement à poursuivre les consultations de Nairobi. Ils l'ont exprimé hier soir à Goma au cours de la réunion préparant le deuxième round de ces discussions. L'invité de ce soir, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, il explique les avantages qu'offre le système de prise en charge des retraités et rentiers par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de Kisangani. La cour d'appel de la province de la Tchopo a annulé le second tour de l'élection du gouverneur. Scrutin organisé le 6 mai dernier, l'arrêt de la cour a été prononcé ce jeudi lors d'une audience publique. Dans son arrêt, la cour d'appel de la Tchopo estime que le député provincial Jean-Marie Ngandi, suppléant du député provincial Jean-Pierre Litema, dont le mandat était suspendu du fait de son incompatibilité par rapport à sa fonction de ministre provincial, ne devrait pas voter. Explication avec Jacques Moukonkolé.
La ville de Kisangani est en ébullition ce jeudi après l'annonce de la décision de la cour d'appel. Cette dernière la justifie notamment par le vote irrégulier de Jean-Marie Ngandi pour maître Dominique Kangamina, l'un des avocats de la requérante Madeleine Nikomba. La cour vient de dire le droit.
Comme le titulaire du mandat parlementaire avait déjà recouvré son mandat parlementaire après avoir démontré de la cessation de toute autre fonction qui le mettait en incompatibilité, et donc le suppléant n'avait plus de qualité pour poser moindre acte comme député provincial.
Le collectif des avocats du gouverneur élu, Tony Kapalata, se dit surpris par cette décision de la cour. D'après maître Jean-Paul Lingofo, l'un d'eux, leur client, ira en appel pour que le juge dise le vrai droit.
C'est quand même une décision surprenante, mais en tant que procédurier, nous pensons que rien n'est encore perdu. Ce n'est qu'une partie remise. Quoique notre client usera de ses droits fondamentaux et va saisir la juridiction supérieure afin que les juge d'appel puisse y statuer et éventuellement dire les droits.
Rappelons qu'à l'issue du second tour, Tony Kapalata et Madeleine Nikomba avaient obtenu le même nombre de voix, soit 14 chacun. Tony Kapalata avait été désigné vainqueur en vertu de l'article 170 de la loi électorale. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Élection des gouverneurs toujours à la Mongala. Un seul contentieux électoral est sous examen depuis mercredi dernier au niveau de la cour d'appel. Il s'agit du recours en annulation qui a été introduit par le député Aimé Bokungu, candidat arrivé en deuxième position contre le candidat élu César Limbaya. Aimé Bokungu a accusé Limbaya de fraude et corruption lors de l'élection. L'arrêt de la cour est attendu ce week-end ou le lundi prochain. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
Ce jeudi, en début d'après-midi, a indiqué le premier président de la cour d'appel de la Mongala. Celle-ci a siégé essentiellement pour recevoir le réquisitoire du ministère public, ce dernier qui a sollicité 24 heures afin de donner son avis. Aussitôt après, la cour a continué pour prendre l'affaire en délibéré avant le rendu de son arrêt, qui interviendra soit samedi, soit lundi prochain, a rassuré le premier président Mfutu Bolenge. Mais le procès avait plutôt débuté à l'audience de mercredi dernier sous le dossier RCE 029. Il s'agit de l'unique contentieux électoral déposé par le candidat malheureux Aimé Bokungu, qui a obtenu 6 voix sur 20 votants lors de l'élection du 6 mai dernier. Il a accusé son challenger César Limbaya, qui l'a emporté avec 13 voix sur 20, de fraude électorale, d'actes de corruption ainsi que d'utilisation des personnels de l'État et consorts. Notons que cette première audience a été consacrée à la plaidoirie des deux parties au procès. Toutefois, certains acteurs de la société civile et activistes des droits humains contactés à Lissala se sont plutôt félicités de la transparence avec laquelle s'est déroulé le vote du nouveau gouverneur et du vice-gouverneur de la Mongala. Bandaka, Porchamalenge, la Radio Okapi.
Et puis, le juge Corneille Wassinda est devenu officiellement depuis hier juge président intérimaire de la Cour constitutionnelle. La cérémonie de remise et reprise est intervenue dans une ambiance sobre entre lui et l'ancien président de la Cour et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kalouba, avec tout son cabinet. Ce dernier a remis à son successeur le marteau de commandement, symbole de son pouvoir, sans aucune déclaration faite au public. Kalouba a simplement remercié ses anciens collaborateurs pour leur soutien durant son mandat. Wassinda assumera ainsi l'intérim de président de cette haute juridiction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette élection devra intervenir après la nomination de 3 juges en remplacement de ceux qui ont été tirés au sort. Et le procureur général, près cette cour, assumera l'intérim du président du Conseil supérieur de la magistrature, composé actuellement de 6 juges. La cour constitutionnelle ne pourra valablement siéger et délibérer qu'à 9 membres. Nord Kivu, au total 18 groupes armés de la partie sud de la province ont réaffirmé hier tard dans la soirée leur engagement à poursuivre les consultations de Nairobi. C'était au cours de la réunion de planification organisée par l'équipe conjointe pour les préparatifs du deuxième round de ces discussions, réunion tenue au quartier général de la MONUSCO à Goma. Le point avec Gabriel Wamenya.
Sur les 12 groupes armés présents à cette rencontre qui avaient pris part aux premières consultations de Nairobi au mois d'avril dernier, 6 autres représentants des groupes armés ont rejoint le processus de Nairobi sans user de détour, a affirmé Giscard Koussema. Au cours de leurs échanges avec les acteurs de l'équipe mixte, ces responsables des groupes armés ont clairement expliqué les leitmotifs de leurs revendications. C'est entre autres l'autodéfense populaire, mais aussi ils ont évoqué la raison identitaire et la stigmatisation dont certains se croient victimes. Selon les sources de la présidence de la République, l'équipe mixte qui est arrivée dans la matinée de ce jeudi à Bunia devra rencontrer sur place les leaders communautaires du Grand Nord et ceux de l'Ituri. C'est avant de s'entretenir avec les représentants des groupes armés de cette zone. L'agenda de l'équipe mixte prévoit également la même méthodologie du travail à Beni et dans la province du Sud Kivu, en croire les sources de la présidence de la République. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, une délégation d'experts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a présenté hier son ordre de mission au président de l'Assemblée nationale, conduite par le président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Cette délégation séjourne en RDC dans le cadre de la mise en place d'une justice transitionnelle pour juger tous les crimes internationaux commis en RDC. Au sortir de cette entrevue, le président de l'équipe d'experts internationaux en RDC a fait savoir que le mandat des experts des Nations Unies a commencé en 2017 par la crise due au phénomène Kamuina-Nsapu, dont un rapport a été publié. Explication, Michel Kifindangoy.
À en croire le président de l'équipe des experts internationaux, c'est sur demande du gouvernement congolais que le Conseil des droits de l'homme a élargi leur mandat sur toute l'étendue du pays afin de lutter contre l'impunité en RDC. Bakré Wali Ndiaye.
Et ce mandat élargi nous a permis depuis octobre dernier de faire des visites dans le pays pour pouvoir en quelque sorte aider le gouvernement à mener de pair les politiques de désarmement, de promotion des réconciliations. Il est impossible de bâtir la justice de transition sur la base de l'impunité. Donc il y a des cas à sélectionner pour les conduire devant les juridictions appropriées.
De son côté, le président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a expliqué que les experts des Nations Unies accompagnent la RDC dans la mise en place d'une justice transitionnelle. Simon Pierre Yananyomologi.
Il s'agit de réconcilier le peuple congolais sur base d'un processus de justice qui ne soit pas la Il y a 4 piliers sur lesquels nous travaillons. D'abord, le pilier vérité. Quand on aura fait ça, il faut après voir comment rendre justice. 3e étape, il faut réparer. Et 4e pilier, il faut éviter que ça se répète.
L'objectif de cette démarche est de lutter contre l'impunité et faire en sorte que les crimes commis ne se reproduisent plus sur les territoires congolais, souligne Simon-Pierre Yananyo.
Direction l'Ituri, une embarcation a chaviré mercredi au lac Albert. On déplore 3 morts et environ 40 disparus vers Mokambo, dans le territoire de Mahagi. Selon des sources concordantes, un vent violent qui a soufflé dans la région est à l'origine de ce drame. Les pêcheurs se sont mobilisés pour tenter de sauver des vies humaines en détresse. Reportage d'Isaac Remoyope rendu par Martial Kizabiamungu.
Une embarcation avec plus de 50 passagers à son bord a quitté Ramogi dans les territoires de Mahagi mercredi matin pour se rendre à Tchobia sur le lac Albert dans les territoires voisins de Djougou. Après quelques heures de navigation, cette pirogue en bois avec un moteur hors bord a été surprise par un vent violent. L'embarcation n'a pas pu résister aux vagues qui s'est déchaînée et a chaviré. Des sources concordantes avancent un bilan provisoire des 3 morts dont les corps ont été repêchés par les pêcheurs et 40 disparus. Une dizaine d'autres personnes ont été sauvées de la noyade par ces pêcheurs qui ont apporté les premiers secours à cette embarcation à détresse. Ce matin, les recherches se poursuivaient pour trouver d'éventuels survivants. Les services lacustres déplorent ces drames qui sont dus au non-respect des normes de navigation, notamment les ports obligatoires du gilet de sauvetage et la surcharge de l'embarcation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, au sud Kivu, les dernières pluies qui se sont abattues sur Shabunda Centre ont fait des dégâts matériels importants. Écoles, maisons et églises sont emportées, laissant des fidèles et élèves sans abri. L'administrateur de Shabunda, Kashumbana Bin Saleh, lance un cri d'alarme en faveur de ces sinistrés. Il est joint par Emmanuel Elameji Wakabidi.
La nuit du 15 au 16, il y a eu beaucoup de dégâts. Plusieurs maisons d'habitation, plusieurs écoles, églises endommagées au niveau de Shabunda Centre et au niveau de Mapimo. Nous tendons déjà les mains vers les partenaires de bonne volonté, c'est-à-dire les humanitaires, les gouvernements provinciaux, les gouvernements au niveau national, pour venir en aide à ces catégories qui ont connu des catastrophes, c'est-à-dire les maisons, les toitures emportées, les écoles, les églises. Alors, les fidèles doivent trouver des endroits pour reprendre la prière. Les élèves, nous sommes vers l'année scolaire, l'année très condensée. Alors, s'il y a des situations telles que les élèves n'ont pas des endroits fixes pour assurer les enseignements, c'est déjà un problème. Les familles passent la nuit à la belle étoile. Près de vous, la radio, surtout vous, la radio au Kabi, déjà de procéder à des plaidoyers pour les organisations non gouvernementales, nationales et internationales.
Province du Maniema, célébration hier de la journée des enfants orphelins du VIH-Sida. À cette occasion, les enfants orphelins du Maniema disent être discriminés et abandonnés par les autorités publiques. Toutefois, ils remercient le groupe scolaire Saint-Martin qui prend en charge leurs études. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Ce cri d'alarme a été lancé dans la salle SNCC où plus de 75 orphelins ont été sensibilisés sur leur rôle dans la société. Le promoteur du Saint-Martin parle de certaines difficultés rencontrées, notamment dans la prise en charge nutritionnelle et médicale de ses enfants. Miami Bikenge.
Je n'ai aucun financement jusque-là. J'ai les difficultés liées au kit scolaire pour chaque rentrée scolaire, les difficultés liées à leur prise en charge médicale. Également, il y a certains enfants, ils n'ont pas même à vivre un sac de farine. On ne sait pas comment les nourrir. Les enfants orphelins, nous les avons là-bas au Brazza. Venez les assister, ne fût-ce qu'avec un sac de maïs. La vie est difficile pour ces enfants.
En remerciant les efforts du promoteur et de leurs enseignants, ces enfants dénoncent leur traitement par les autorités et associations. Yuma Aridi.
Malgré nos multiples difficultés, toutefois, à nos collègues orphelins de la province en général, être orphelin, c'est facile pour moi. Mais pour vous, quel serait les cas. Nous sommes marginalisés, oui, mais il faut toujours être à l'aise.
Signalons qu'il y a de cela 8 ans que le groupe scolaire Saint-Martin prend en charge les études de ses enfants. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et dans la province du Kwilu, les enseignants des sous-divisions de l'EPST de Gungu 1, Gungu 2, 3, 5 et 6, dont la province éducationnelle Kwilu 3, dénoncent les retards récurrents des paiements de leurs salaires par EcoBank. Présentement, ils accusent 2 mois d'arriérés de salaire, soit mars et avril dernier, pour ceux de Kilembe, de Ngashi et de Kanganda. C'est ce que rapporte le président de l'intersyndicale de ces enseignants de Gungu 2. Simon Moulunga sollicite l'intervention du gouvernement tant provincial que national. Radio Kapi a tenté en vain d'avoir la réaction de EcoBank à Kikwit.
Actualité Afrique Monde.
À l'ONU, le Conseil de sécurité s'est réuni sur le G5 Sahel hier pour une réunion régulière sur la paix et la sécurité en Afrique. Les membres du Conseil ont condamné le retrait du Mali de la force régionale. Ils espèrent que Bamako prendra ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Ils ont réclamé un renforcement du mandat de la MINUSMA. Et puis, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, demande un réajustement de la force de l'ONU pour protéger les civils victimes d'exactions de toutes les parties du conflit en République centrafricaine. Valentine Rugwabiza a pris la parole pour la première fois lors d'une conférence de presse à Bangui.
L'invité.
Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, est notre invité. Il explique les avantages qu'offre le système de prise en charge des retraités et rentiers par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNSALP. Le ministre Jean-Pierre Liaou assure la population que les réformes qu'opère le gouvernement dans le secteur de l'administration publique visent à humaniser la retraite en RDC. Jean-Pierre Liaou s'entretient à ce sujet avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Lugumbo.
Vous aviez présenté au tout dernier Conseil des ministres un dossier relatif à la réforme du système de retraite. De quoi s'agit-il concrètement?
Écoutez, il s'agit d'une réforme relative à l'unification des régimes de retraite par le basculement des anciens retraités d'avant 2015, les retraités dont du régime octroyé, vers les régimes contributifs qui est porté par la CENSA. Il s'agit d'une suite donnée à la réforme de l'administration. Ces régimes sont financés par les cotisations sociales versées par les agents et par l'État employeur. Et c'est un régime qui entend promouvoir une solidarité intergénérationnelle en alliant les objectifs de soutenabilité, de viabilité et de pérennité. Et les régimes octroyé, qui est donc un régime qui permet à l'État de payer directement lui-même les pensions aux retraités, a démontré ses limites parce que il est porteur de beaucoup d'injustices, beaucoup de faiblesses, beaucoup de disparités. En somme, il s'agit de 102 949 retraités civils et 10 663, je crois, rentiers, soit un total de 113 582 bénéficiaires qui sont concernés par ces basculements.
Alors, ce sont des retraités à partir de 2015 ou bien des retraités aujourd'hui?
Non, c'est tous les retraités qui sont... Donc, tous les agents qui ont été mis à la retraite après 2015 sont automatiquement, si vous voulez, portés par la CENSAP. Et ceux qui le seront demain dans le cadre de vagues à venir, eh ben, eux aussi seront déversés automatiquement à la CENSAP.
Alors, comment se présentent les tableaux de cette rémunération de la retraite?
Au terme de ces basculements, le nouveau barème va permettre à ce que l'agent qui était mis à la retraite, donc au grade de directeur, qui avait donc 21 000 francs, comme je l'ai dit tantôt, à Kinshasa et puis 12 000 en province, eh bien, recevra 114 000 plus ou moins francs par mois, soit à Kinshasa une augmentation de 442% et en province une augmentation de 804%. Et c'est lui qui était donc mis à la retraite au grade d'huissier et qui recevait donc 15 200 à Kinshasa et 8 200 en province, va désormais recevoir 81 000 francs, 81 753 pour être précis, soit une augmentation de 427% à Kinshasa et 891 en province. Mais toutes les autres catégories donc vont connaître les augmentations avec une moyenne plus ou moins donc de 373% moyenne générale à Kinshasa et de 777% en province, vont nous permettre d'avoir une base à partir de laquelle nous allons lancer un processus d'amélioration parce que l'objectif est de voir humaniser la retraite dans nos pays. D'abord, je vais procéder à la signature d'un arrêté portant modalités pratiques de la réforme. Je mettrai en place une commission de suivi pour que un meilleur encadrement soit assuré à ces processus. Ensuite, un rapport me sera soumis le 15 juillet 2022 et le lancement de la paye interviendra le 20 juillet.
Alors pour terminer, monsieur le ministre, qu'en est-il du forfait d'indemnité accordé aux retraités?
Les indemnités de fin de carrière, pour les agents actifs devant être mis à la retraite. Alors, pour ça, nous avons organisé un atelier portant sur la consolidation de la base de calcul de ces indemnités. Il y avait une base juridique qui était là, qui effectivement offrait 2 000 $ à chaque agent. Nous avons pensé modestement que cette base était faible. C'est ainsi que nous avons ramené ces montants à 10 000 $ qui sera régulièrement payé par la CNSAP, qui fait ses preuves, même si nous souhaitons effectivement, dans le cadre de la prochaine politique salariale, consolider les salaires des bases afin de faire en sorte que la caisse ait beaucoup plus de moyens de sa politique. C'est pour cela que j'ai demandé au président de la République, chef de l'État, j'ai soumis à son appréciation et à l'appréciation du Premier ministre, qui l'ont donc accepté, le principe de l'organisation d'un forum portant sur la réforme de la politique salariale dans notre pays. C'est cette politique salariale qui pose problème aujourd'hui, qui a démontré ses limites. Il nous en faut une nouvelle qui soit porteuse de plus de justice.
Monsieur le ministre, nous vous disons merci de nous avoir accordé cette interview.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie, monsieur Lugembo.
Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, répondait aux questions de J.R. Lungembo. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungu Chinch. Merci de l'avoir suivi.